Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Mathieu, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va ?
Bah écoute, merci beaucoup, ça va très très bien, en grande forme.
Super, top, heureux d'apprendre ça. Eh bien, est-ce que tu peux commencer cet épisode par te présenter et puis présenter ce que tu fais, s'il te plaît ?
Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Donc je suis Mathieu Thomas, cofondateur de Cards, édité donc par la société Sequoia que j'ai créée en 2018 avec Nicolas, mon associé. Et Cards, c'est une solution, une démarche, une philosophie qui permet de créer des formations courtes et mémorables en un rien de temps. Le but est de partager ou transmettre les savoirs internes d'une organisation de manière vraiment facile, simple, et rapide en l'occurrence auprès de ses collègues et ses collaborateurs. Donc voilà, je fais ça, on a créé une équipe, on est sur Lyon et donc je suis cofondateur et CEO de cette structure et solution.
Ok, donc là tu m'as fait l'elevator pitch, c'est bon, on est prêt à lever des fonds. Maintenant on va revenir un petit peu en arrière, il faut que tu me racontes, parce que je crois que tu as été formateur pendant un moment, comment vous êtes arrivé à Cards, quelle est la genèse du projet et qu'est-ce qui est différent du coup?
Alors ouais, en effet, là je t'ai fait la version très très courte, on aime bien les sujets courts et mémorables comme tu l'as compris. Alors moi en gros, en quelques mots, depuis une quinzaine d'années maintenant, j'ai travaillé dans le monde de la formation professionnelle. En tant qu'autodidacte, juste après mes études, je me suis lancé à mon compte pour créer des sites, des supports de communication, aider des petites boutiques en Auvergne, des petites entreprises à se lancer, à être visibles, à communiquer. Et puis petit à petit, j'ai ressenti et vite eu le besoin aussi de former mes clients pour les rendre autonomes plutôt que d'être dépendants de moi. J'en suis arrivé à m'intéresser au sujet de la formation, à comment concevoir et animer des supports de formation, mais aussi des formations impactantes, ludiques dans certains cas, mais en tout cas des formations qui apportent vraiment des connaissances et de la valeur. Et j'ai fait ça du coup à mon compte avec mon propre organisme de formation pendant une quinzaine d'années, pendant lesquelles aussi j'ai eu l'occasion de travailler chez Apple à mi-temps pendant 4 ans en tant que formateur et les dernières années en tant que formateur au niveau français. C'est-à-dire que je formais les nouveaux formateurs qui étaient recrutés sur le marché français pour ensuite les redispatcher dans leurs magasins respectifs de manière à ce qu'ils soient capables de concevoir et d'animer des formations en Apple Store. Donc voilà, moi je viens vraiment du monde de la formation professionnelle, j'ai fait ça pour des grands groupes, des indépendants, des petites entreprises et pendant 15 ans j'ai fait les mêmes erreurs, c'est-à-dire penser et continuer de penser que mes clients devaient en avoir pour leur argent et donc leur fournir un support de formation complètement indigeste, animer mes formations ou des formations avec des PowerPoint à rallonge et quand on est arrivé de ces dernières dizaines d'années, le mouvement de l'e-learning où on s'est entre autres contenté de digitaliser nos supports de formation et de faire encore une fois là une grave erreur. J'ai fait cette erreur, je suis rentré vraiment les deux pieds dedans. J'ai digitalisé mes supports de formation en faisant du PowerPoint interactif, des choses comme ça, ensuite de la visioconférence avec évidemment le Covid qui est arrivé. Mais voilà, concrètement, il y a eu une phase de recherche et de développement entre 2016 et 2018 où je commençais d'en avoir marre de travailler tout seul. J'ai rencontré mon associé Nicolas en travaillant sur un projet en commun pour un client lyonnais. Et en l'occurrence, on avait et on a toujours cette passion, cet amour pour le partage de connaissances, pour la transmission de savoir, de compétences, de connaissances. Et on en est arrivé à faire la recherche sur le sujet qui est le micro-learning. Micro-learning, ce sont des formations courtes de 3 à 5 minutes en moyenne sur n'importe quel sujet, en l'occurrence, donc que tu peux créer, que tu peux partager, que tu peux diffuser auprès de tes équipes, donc en interne ou en externe, auprès de tes distributeurs, revendeurs, franchisés, auprès de ta cible apprenante. Et quand j'ai découvert cet univers-là, qui existait déjà depuis quelques temps, notamment principalement aux États-Unis, c'est un sujet qui était très lié avec le mobile learning, donc un support. Et quand on regardait ce qui existait en France, notamment à l'époque, quelles sont les solutions qui nous permettent de faire du micro-learning de manière simple, rapide, efficace. Bah, ça coûtait très, très, très cher, pour ne pas dire très, 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 très cher. Et c'était complètement inabordable. L'expérience utilisateur proposée était parfois très légère, très pauvre. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une place à prendre et qu'on voulait révolutionner, en l'occurrence, cet univers-là. Donc, en 2018, avec Nico, on crée notre société pour arriver petit à petit à développer un produit qui est Cards aujourd'hui, Cards Microlearning, qui permet à n'importe quel collaborateur en entreprise de créer des formations courtes et mémorables en un rien de temps. Voilà l'élévateur pitch détaillé.
Ok, non, mais c'est super intéressant. Donc là, on comprend pourquoi vous avez créé ça. Alors, il va falloir quand même que tu nous expliques un tout petit peu comment ça fonctionne. Parce que là, quand tu dis n'importe qui peut créer, mais est-ce que c'est vraiment n'importe qui? Parce que parfois, dans les entreprises, on voit que tu as un responsable formation ou tu as un formateur qui crée les choses. Là, je comprends que ça peut vraiment être n'importe qui. Est-ce que c'est un parti pris que tout le monde a la connaissance ou est-ce qu'il y a quand même des limites? Qu'est-ce que vous avez choisi pour ça et pourquoi?
Ouais, c'est vraiment. Alors c'est pas un parti. Alors c'est un parti pris, oui, mais pas que. Les savoirs dans l'entreprise, ils sont partout. C'est une grave erreur de se dire que quand t'arrives dans une organisation où t'es stagiaire, que t'es alternant, que t'es nouveau collaborateur, sans CDD, en CDI, peu importe, ou prestataire, c'est une grave erreur de se dire que t'as tout à apprendre dans cette entreprise-là. T'as aussi beaucoup à apporter. T'as des connaissances, t'as une expertise, t'as un vécu, et donc t'as forcément des savoirs aussi à apporter dans cette entreprise-là. Et évidemment, tu vas découvrir énormément de l'organisation et tu vas pouvoir toi-même t'enrichir. Mais du coup, le parti pris, il est de se dire que il n'est pas nécessaire et obligatoire d'être formateur ou ingénieur pédagogique pour concevoir et partager une formation qui est une micro-formation. Un grain qui est léger, qui n'impacte pas trop la productivité des collaborateurs et qui ne vient surtout pas remplacer le métier de formateur dans l'entreprise ou le rôle du manager, du chef de projet. Non, au contraire, c'est une modalité qui est très intéressante parce qu'elle permet de rester centré sur l'humain comme moteur d'animation des formations et des réunions. Et donc, on a tous une capacité à concevoir, à partager des connaissances sur ce format-là, sur cette modalité-là.
Ok, donc là, je vais aller sur PC, peut-être téléphone aussi, parce que vous avez une application mobile aujourd'hui.
Ouais, exactement. La conception, elle se fait sur une plateforme web, hein, depuis ordinateur, Mac, PC, autre, peu importe. Et ensuite, tu fais la conception de ta micro-formation. Donc, tu crées une capsule qui a un titre, une description, un visuel. Dans cette micro-formation, tu vas créer ce qu'on appelle des chapitres. En fait, les chapitres, c'est ce qui va contenir des thématiques, donc une thématique sur tel et tel sujet que tu vas détailler avec des textes, peut-être des images, des quiz, des gifs animés, pourquoi pas un sondage, une vidéo, de l'audio. Donc, il y a divers types de contenus qu'on appelle, nous, des cartes, pour ça qu'on s'appelle cards, que tu peux mettre dans tes chapitres pour structurer ta formation. Et tu peux pas créer autant de chapitres que tu veux, tu es assez cadré sur la quantité de cartes par chapitre et le nombre de chapitres que tu vas créer dans ta formation. C'est ce qui fait que tu es sur un format qui est court, simple et rapide, autant à consulter qu'à parcourir.
Et donc la formation la plus longue possible sur Cards, ça fait combien de temps alors?
Ouais, une vingtaine, trentaine de minutes tout au plus.
Vingtaine, trentaine de minutes, ok, donc c'est vraiment
déjà,
le maximum.
C'est déjà long.
Ok, et est-ce que tu penses que toutes les formations vont tendre à être des formations de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 minutes? Ou est-ce que il y a de la place quand même encore aujourd'hui pour des formations plus longues? Est-ce que c'est un complément ou est-ce que c'est un remplacement?
Ouais, c'est un complément. Je pense qu'on ne va pas vers un univers, vers un monde qui tend à faire toujours du plus court, toujours du plus fast, du plus rapide. Non, non. Je pense que c'est vraiment un réel complément pour asseoir l'impact qu'il y a en présentiel d'un formateur, d'un manager, d'une personne qui anime quoi que ce soit, une réunion ou une formation. L'effet machine à café en présentiel, il est excellent. Et c'est un très bon exemple d'une action de micro-learning sur un moment convivial en présentiel. Et bien, c'est exactement la même chose en distanciel. On ne va pas venir remplacer cette machine à café. On va venir donner accès à une information, à une connaissance sous une forme digeste en ligne. Et c'est un réel complément qui peut arriver en amont de ta formation en présentiel ou en distanciel, d'ailleurs, si tu continues de faire de l'e-learning ou des visios typiquement, tu peux très bien mettre tout le monde à niveau avant le jour J grâce à du partage de plusieurs micro-formations qui vont permettre d'éduquer, de sensibiliser sur ton sujet qui aura donc plus d'impact le jour J parce que tout le monde aura eu un grain de mise à jour d'information. Et puis, tu peux surtout, à la fin de ta journée, plutôt que de partager un PowerPoint à rallonge avec une centaine ou 150aine de slides, bah, tu peux partager un récap en mode micro-learning. Et ce récap, tu peux continuer de le faire vivre après ta formation. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, les apprenants, les collaborateurs, ils vont avoir accès sur leur mobile. On a une app iOS, Android, en effet, ou dans Microsoft Teams, ou en ligne sur leur ordinateur. Ils vont avoir accès à ces grains, à ces micro-learnings que tu as créés sur Carbon.
Donc j'imagine que les formateurs doivent être plutôt fans de ça parce que ça leur permet d'avoir un complément, ça leur permet d'aller plus vite, de faire en sorte que les gens apprennent peut-être en dehors de la classe aussi. J'imagine que c'est quelque chose pour rappeler une compétence. Je rentre, je prends le métro, je fais ma petite formation. Donc on le voit avec le mobile learning, parce que vous êtes un peu dans la tendance aussi, j'imagine.
Exactement.
C'est un vrai sujet. Comment par contre, parce que c'est là où je m'interroge, sur une société de 30 personnes, par exemple chez EduSign, tous les collaborateurs se mettent à faire une ou deux formations, bon, on se retrouve déjà avec 60 contenus, ok, ça va, encore, c'est pas trop. Demain, il y a Capgemini avec 150 000 collaborateurs qui utilisent ça. Comment vous faites pour gérer ça? Si tout le monde peut gérer le truc, est-ce que vous avez des catégories? Est-ce que vous avez de l'IA derrière? Est-ce que vous prévoyez d'améliorer ça dans le futur? C'est quoi les challenges que vous avez aujourd'hui par rapport à ça?
Alors ouais, on est plutôt très avancé hein, déjà sur ces sujets-là parce qu'on travaille avec des grands groupes, pas encore avec Capgemini, mais on a discuté en effet avec eux. On travaille avec des grands groupes comme la Caisse d'Épargne, la Maif, la Métropole de Lyon aussi, qui compte voilà des dizaines de milliers d'agents typiquement. Et sur ces gros volumes-là, il faut savoir qu'en effet dans Cards, t'as un fonctionnement qui est très très simple, j'ai envie de dire, très intuitif par groupe. Un peu comme dans ce qu'on appelle un Active Directory d'entreprise, tu as un répertoire d'entreprise, donc qui peut être synchronisé D'accord. avec Cards, et donc tu vas retrouver tes groupes directement dans Cards, ou alors tu vas les créer et gérer.
Si
comme
je suis
ça.
Développeur, je vois que les contenus de développeurs a priori, quoi, par exemple.
Exactement, ouais, tout à fait. Et ensuite, tu as plusieurs niveaux. Tu as le propriétaire d'un espace Cards. Le propriétaire, c'est celui qui crée l'espace, qui le configure en 30 secondes top chrono. Ensuite, dans ce compte, dans cet espace-là, tu vas avoir des éditeurs. Les éditeurs sont ceux qui ont la main et la possibilité de créer des formations et de suivre l'apprentissage, l'engagement qui a été généré grâce à leur micro-formation, grâce à leur contenu. Et il y a les apprenants ou les collaborateurs qui, eux, ont un rôle seulement de consultation, si je puis dire, et d'accès au savoir. Ils ne peuvent pas créer. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le propriétaire ou les éditeurs peuvent décider de changer les rôles et d'administrer les rôles comme ils le souhaitent.
Ok, super intéressant. Est-ce que vous avez des fonctionnalités de collaboration? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez avoir? Et d'ailleurs, je vais transformer la question pour aller un peu plus loin. Donc là, j'imagine qu'il y a énormément de données qui sont générées suite à l'utilisation de ces formations. Est-ce que vous en faites quelque chose pour les RH, pour les responsables formation, pour qu'ils puissent améliorer peut-être le contenu, donner des petits tips aux formateurs ou avoir des feedbacks? Est-ce que vous avez de l'amélioration continue via tout ça? Je peux plus imaginer que oui, mais qu'est-ce que vous faites?
Alors oui, il y a de la data. C'est un gros sujet sur lequel on travaille depuis quelques années. Tu parlais d'IA tout à l'heure. Il y a aussi de l'IA qui est désormais intégrée via notre assistant de conception par intelligence artificielle. Il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle des learning routines, des routines d'apprentissage qui sont adaptées au rythme ou à la progression de chacun de tes apprenants. Donc il y a de la data. Il y a de la data sur l'engagement. Il y a de la data sur les formations qui ont été vues, qui ont été complétées, les chapitres qui ont été démarrés, sur les réponses aux quiz, sur les sondages que tu as pu proposer. Donc, de la data, il y en a, et on permet en effet à nos clients d'exporter cette data pour leur permettre de faire des reporting ou des suivis. Alors, soit ils ont une partie du reporting qui est fait dans Cards, mais s'ils veulent faire par eux-mêmes leur reporting, je sais pas, dans un Power BI, dans un tableau ou X ou Y, ils peuvent exporter cette data et le faire par eux-mêmes. Ça, c'est important. Et tu parlais de collaboration. Alors, la collaboration, c'est un réel enjeu, en l'occurrence. Dès qu'on parle de collaboration ou de social learning, aussi d'échange entre les pairs, typiquement, on sort du cadre du micro-learning. C'est-à-dire qu'on rentre dans une démarche où on va créer de l'échange, on va créer de l'émulation. Et cette émulation, elle peut se faire sur Teams, dans des groupes de discussion, elle peut se faire sur Slack ou elle peut se faire sur WhatsApp, LinkedIn ou bien d'ailleurs, ou dans la vraie vie, évidemment. Et dans Cards, un choix, en l'occurrence, a été fait, en l'occurrence, qui est de ne pas rentrer dans une démarche de plateforme qui fait un peu de social learning, un peu de mobile learning, un peu de ceci.
Vous faites un truc très bien et vous n'essayez pas de tout. Vous avez bien raison.
Exactement, c'est ça. On ne propose Et on ne permet en l'occurrence que de rester dans une démarche de contenu digeste et de conception simple. Donc c'est que du micro-learning, mais après l'accès à tes contenus créés en micro-learning, bah, ils peuvent se faire sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur Slack, sur Teams ou dans d'autres plateformes. Tu peux exporter en SCORM et intégrer ça dans ton LMS, mais la conception et le suivi, tu peux le faire dans Card et ça restera toujours du micro-learning.
Oui, donc les intégrations forcément qui sont stratégiques pour vous, pour rendre l'usage le plus facile pour les utilisateurs. J'imagine que Teams dans les grands groupes est fortement utilisé. Vous êtes plutôt sur les grands groupes, hein, je ne me trompe pas. Vous êtes, est-ce que vous avez des écoles qui utilisent Card aujourd'hui ou pas?
Non, on n'a pas trop d'écoles. On a plutôt quelques organismes de formation ou des personnes qui ont pareil monté leur organisme de formation en nom propre. Ou des associations qui aussi utilisent Card pour promouvoir ou sensibiliser. Je pense à Art for Science, typiquement, qui promeut les bienfaits de l'art sur le cerveau et qui a créé la première académie du cerveau en ligne avec Card et sur Card. Donc, on a ce genre de clients-là. Et on a, en effet, de l'autre côté aussi beaucoup d'ETI et de grands groupes qui utilisent Card comme une solution pour, je vais dire très, très franchement, venir à bout des PowerPoint à rallonge, venir à bout des e-learning interminables et se dire plutôt que à chaque fois devoir passer par la formation, les formateurs, les équipes ingénieurs pédagogiques qui sont déjà surchargés, qui ont déjà énormément à faire, ils vont plutôt voir Card comme un outil du quotidien pour transmettre une information et qui ne va surtout pas remplacer le métier des IP, des ingénieurs pédagogiques ou des formateurs dans l'entreprise, mais qui va plutôt alléger la densité d'informations et le partage d'informations internes. Comme ils pourraient partager un SharePoint, un doc à leurs collaborateurs sur Teams, demain, ils vont plutôt se servir de Card comme Canva, typiquement, qui est une solution beaucoup plus accessible à tout type de collaborateurs que Photoshop peut l'être ou Illustrator ou InDesign. Tu vois, on est un peu comme ce qu'est Canva à Photoshop. Nous, on est Card par rapport à PowerPoint, tu vois.
Ok, d'accord. Oui, et puis j'imagine du coup que la mise à jour est forcément beaucoup plus rapide. Et peut-être qu'on hésite moins à créer aussi un nouveau Card plutôt que de dire il faut refaire tout le PowerPoint.
Donc là, ça se met à jour instantanément, rapidement, et c'est beaucoup plus rapide. Ouais.
Et est-ce que tu peux me donner un exemple d'impact que ça a pu avoir dans un groupe? Est-ce que tu as vu un client où il partait d'un état peut-être un peu chaotique, on n'a pas forcément besoin de le nommer, hein, mais si tu peux le nommer si tu veux, mais où il partait un peu de loin et qu'est-ce que ça a permis? Est-ce que tu as un petit success story? Qu'est-ce que ça a permis? Parce que finalement, quand on parle de micro-learning, de mobile learning, il y a toujours d'une partie des gens, en tout cas un certain scepticisme sur est-ce que je peux vraiment apprendre quelque chose en 5 minutes? Alors, c'est 5 minutes fois peut-être 20 ou fois 30 ou fois 50, mais est-ce que tu as quelques chiffres ou quelques exemples qui pourraient contre-argumenter ça?
Alors ouais, il y en a plein pour le coup, mais en effet, il y en a un qui me vient plus en tête que les autres, forcément. Un sujet, en l'occurrence, de sensibilisation et de formation aux risques psychosociaux. Typiquement, donc c'est un sujet qui est pas simple à aborder toujours, mais qui est primordial aujourd'hui, de sensibiliser, d'éduquer, de former sur ces sujets-là, hein, les RPS, et en parallèle aussi sur tout ce qui est QHSE ou QVT, typiquement. Typiquement, voilà.
J'ai perdu les acronymes, donc les risques, quoi, c'est ça?
Les risques psychosociaux, RPS, les risques psychosociaux. Ouais. Je prononce cet exemple-là, où on a un client, avec pas mal de collaborateurs, où sur une année, il y avait des actions éparses qui étaient faites, et puis ensuite plus rien. On fait une sensibilisation, c'est le mois de la sensibilisation aux risques psychosociaux, il faut absolument que tous les collaborateurs soient sensibilisés, formés sur ce sujet-là. On y va, on met la gomme, donc qui prépare tout en amont, et puis il y a beaucoup de matériel pédagogique à concevoir, hein. Il y a des vidéos, il y a de l'audio, enfin il y a différentes formes et modalités de contenu à concevoir et à préparer. Donc, ça prend énormément de temps. Et plutôt que de faire une action coup de poing sur un mois de l'année, aujourd'hui, avec Card, ce qu'ils font, c'est que sur une année entière, ils font des rappels réguliers et ils complètent ces rappels réguliers avec des mises à jour. Donc, leur campagne de sensibilisation, c'est pas un mois dans l'année, c'est toute l'année. Et c'est toute l'année avec des contenus qui sont courts, 3 minutes, 2 minutes maximum, donc qui n'impactent pas ou très, très peu, en l'occurrence, le collaborateur, y compris les collaborateurs qui sont présents à distance ou sur le terrain et qui n'ont pas du coup la possibilité de venir en salle de réunion, en salle de formation parce qu'ils sont à l'autre bout du pays ou du monde. Donc, ils peuvent avoir accès à ces contenus-là. en temps réel depuis leur smartphone ou leur tablette. Donc ça, c'est un réel cas d'usage pour sensibiliser, former tout au long de l'année avec des contenus courts, surtout pour des cibles qui sont aussi présentes sur le terrain.
Ok, alors j'aimerais revenir du coup sur un des points que tu avais mentionné quasiment au tout début, mais donc c'est les learning routines. On a sauté un petit peu le truc très vite. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est et pourquoi vous avez choisi d'en faire? Parce que ça me semble être quelque chose en complément de la valeur de base que vous proposez. Qu'est-ce que ça explique-moi un petit peu?
Alors ouais, de manière très très simple, learning routine, le terme parle de soi, littéralement en français, des routines d'apprentissage. Une routine d'apprentissage, pourquoi ? Enfin, pourquoi et comment ? Une routine d'apprentissage, c'est l'accès à un contenu de manière répétée, régulière, un contenu qui peut être mis à jour, plusieurs contenus en l'occurrence. On prend comme exemple, nous en l'occurrence, Duolingo ou Babbel. Ce sont deux applications d'apprentissage des langues. Je ne sais pas si tu les connais, si tu les utilises.
Ouais, je pense que tout le monde connaît maintenant Duolingo.
Et bon, Duolingo, c'est un de nos modèles. En l'occurrence, alors moi, je suis un gros utilisateur aussi de Duolingo. J'ai des amis qui l'utilisent tous les jours depuis un peu plus de 1000 jours consécutifs aussi, typiquement. Et en fait, ils ont réussi, Duolingo, entre autres, à créer et à engendrer une routine d'apprentissage régulière pour leur cible apprenante sur l'apprentissage des langues. Et ça, c'est génial. Maintenant, si on prend ce cas-là, routine chez Duolingo, apprentissage des langues tous les jours, depuis X jours consécutifs, typiquement, réussir à développer, à te permettre à toi, chez EduSign, ou à Madame Michu, chez X entreprise, à Raled, chez une autre, de créer sa propre routine d'apprentissage, de la coder, sans être développeur, sans être ingénieur pédagogique, sans utiliser 50 000 outils, c'est très compliqué. Et bien, on a réussi ce challenge. On a réussi à faire en sorte que dans Cards, tu puisses créer deux types de learning routine. Une routine qui va être sur une période donnée où tu as le besoin de former ou de sensibiliser et donc de partager des contenus avec une date de début et une date de fin. Donc, entre ta date de début et ta date de fin, les contenus vont s'étaler et tu vas débloquer l'accès pour tout le monde au même moment. Très simple, c'est une routine régulière sur une période. Et d'un autre côté, c'est là où on a un caractère innovant, on va parler plutôt d'adaptive learning routine, puisque tu vas avoir des contenus qui se débloquent en fonction de la progression de chacun, comme dans Duolingo, comme dans Babbel et dans plein d'autres, sauf que là, tu l'as codé, tu l'as paramétré toi-même ou avec l'aide de notre assistant, et ça t'a pris quelques secondes à peine, parce que tes formations sont prêtes dans ton compte Cards, et que tu dis que tel groupe de collaborateurs chez toi doivent avoir accès à ces contenus et doivent débloquer les suivants en fonction de leur progression. Donc, tu vas avoir une routine adaptative, en l'occurrence, basée sur la progression.
En fonction de ton pourcentage de réussite aux questions, tu vas passer plus ou moins vite à un autre stade, c'est ça l'idée ?
Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est sur la progression globale de la formation. Et vu que, tout à l'heure, je mentionnais aussi qu'on avait pas mal avancé et désormais, il y a de l'IA dans Cards, et bien, typiquement, on travaille à rendre ces routines encore plus intelligentes, en effet. Donc, c'est un gros sujet de travail actuellement pour nous, pour nos équipes.
Ok. Et tu comparais à Duolingo, et c'est vrai que Duolingo, on pense tout de suite au fait que c'est super coloré, c'est sympathique, mais c'est surtout gamifié. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous abordez ou vous prévoyez d'aborder ?
Ouais, on l'aborde à un niveau toujours professionnel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas sur une application mobile de jeu, Candy Crush, ou typiquement les codes qu'a repris Duolingo sur les badges, les points. On n'est pas à ce niveau-là de gamification. Mais dans Cards, en effet, quand tu complètes une formation, tu gagnes des points. Quand tu complètes des chapitres, tu gagnes des points. Quand tu réponds correctement à un quiz dans un chapitre, tu gagnes des points. Si tu peux en répondre de manière incorrecte, tu vas perdre évidemment des points. Donc, tu as une notion de progression et de score qui est intégrée naturellement dans Cards. Et cette progression et ces scores, par groupe et par accès à tes formations, te permet de consulter, si tu as activé la fonction, consulter le classement dans un groupe et de voir que, par exemple, pour ton équipe commerciale, Jean-Pierre, il est deuxième ce mois-ci. Donc, tu peux créer de l'émulation, des petits challenges entre chaque en activant une fonction, une fonctionnalité classement pour un groupe donné ou pour un utilisateur donné. Donc on est resté, tu vois, à quelque chose de très light d'un point de vue gamification. Il y a des badges qui arriveront aussi prochainement en 2024 pour permettre d'enrichir encore plus l'expérience, mais surtout de valoriser l'acquisition et le développement des connaissances directement grâce à Card sur tel ou tel sujet. Donc ce sera aussi possible en l'occurrence de créer, de générer des badges dans Card très bientôt.
Oui, et puis j'imagine que tu as un challenge qui est un petit peu différent du Duolingo qui va s'adresser à n'importe qui, à n'importe quel moment. Enfin, c'est particulier, on peut se permettre un peu plus de choses peut-être que sur les grands comptes. Donc tu dois trouver la limite, j'imagine, entre gamification et professionnel. Donc ça, ça doit être un beau challenge, c'est sûr. Ok, ça, c'est quoi la suite pour Cards?
C'est quoi la suite
pour Cards? Quelques mots sans nous donner les secrets
La roadmap est bien chargée et bien remplie, clairement. On a toujours eu le soin, en l'occurrence, d'intégrer et de travailler avec nos clients en priorité sur la co-construction et le développement de nouvelles fonctionnalités ou l'optimisation de la plateforme. Donc nous, on a une roadmap, évidemment, qu'on fait évoluer, et on l'a fait évoluer en intégrant les besoins et les enjeux de nos clients. Et en fait, on se rend compte que plus les années passent, depuis 2016-2018, on a vu passer pas mal de choses, mais plus les années passent, plus on se rend compte que les collaborateurs en entreprise ont de données, ont de mails, ont de notifications, sont confrontés à de la surcharge d'informations. On appelle ça de l'infobésité. C'est vrai que j'en parle beaucoup sur les réseaux, mais c'est vraiment important. Et l'infobésité, c'est une vraie plaie au quotidien. Et si on prend en compte les PowerPoint à rallonge, justement, ou les e-learning qui nécessitent 30 minutes, 1 heure, voire beaucoup plus souvent pour être derrière son écran à consulter une information ou à scroller sur son smartphone à l'infini, on se rend compte qu'en fait, on perd tout le monde, on dégrade la qualité de vie au travail, voire la qualité de vie tout court d'ailleurs aussi. Et typiquement, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, ce que l'on a dans Cards comme ADN, c'est l'expérience utilisateur. Et dans notre roadmap, ce sera toujours central, c'est central. On ne fera pas dévier la roadmap au risque de dégrader l'expérience utilisateur. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans Cards. Je parlais tout à l'heure de DIA qui va permettre d'optimiser les learning routines, typiquement. On a intégré de l'IA pour concevoir des micro-formations, obtenir une structure de chapitres qui vont être soumis à ta validation, à ton regard de contenu. Également, tu peux uploader un PDF, un PPT ou un doc et ta micro-formation se crée automatiquement à partir de tes données. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On pourrait imaginer demain, tu envoies une vidéo, tu fournis un lien vers une vidéo et à partir de cette vidéo, on te crée une micro-formation. Tu vois, c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi très bien, très bientôt, très, très vite. Mais voilà, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont encore plus faciliter la vie des éditeurs, de ceux qui créent ces savoirs et qui ont besoin de les partager. Et côté apprenant, même chose, ces fonctionnalités, elles ne doivent pas dégrader ni rallonger le temps de consultation sur l'app mobile ou sur la plateforme web ou dans Teams ou ailleurs. Donc, il y a de gros enjeux sur ces sujets-là.
Alors, je suis curieux parce que tu dis mettre l'expérience utilisateur très, très au centre de vos sujets. Vous avez combien de collaborateurs chez Cards aujourd'hui?
On est 7.
Vous êtes 7. Et est-ce que, du coup, vous avez un UX UI designer? Est-ce que vous avez quelqu'un spécialisé là-dessus ou est-ce que vous vous débrouillez avec les compétences que vous avez?
Ouais, on est Nico et moi. Alors, mon associé et moi, Nicolas est CPTO et donc il est responsable technique et produit. Moi, je suis CEO. On a une énorme, je pense en l'occurrence qu'on a un gros background dans l'ergonomie et l'UX, en l'occurrence, tous les deux. Et donc, c'est vrai qu'en travaillant Nico sur le produit et moi sur la roadmap, la vision, le développement, avec les équipes que l'on a et aussi des prestataires, des partenaires qui nous entourent, on a déjà un socle assez fort sur ce côté-là UX. On n'a pas d'UX designer internalisé. Par contre, on a été amené à travailler avec un partenaire, une agence qui est à Saint-Etienne, qui s'appelle Cosmos. Un petit coucou d'ailleurs à Sylvain de Cosmos et ses équipes, qui eux, en l'occurrence, sont vraiment spécialistes et spécialisés dans l'UX et dans le design thinking. Et donc, il nous apporte un cadrage, une méthodologie pour faire en sorte de développer, orienter utilisateurs. D'accord ? Donc, on garde notre socle, mais on a aussi un cadre, un garde-fou qui est ce partenaire-là qui nous accompagne depuis longtemps déjà.
Ok, super. Et il y a juste une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, parce que tu disais que ce n'est pas utilisé dans les grandes écoles. Pourquoi ? Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle aujourd'hui les entreprises utilisent et pourquoi on ne voit pas plus finalement Cards partout? Quelle est la limite aujourd'hui?
Alors, la limite au sein du monde de l'éducation ou de la formation dans le monde du supérieur, typiquement, et des écoles, c'est un sujet qui est basé sur deux choses. Il y a un sujet de prix, il y a un sujet de tarification. C'est qu'on nous demande souvent de faire un tarif éducation. Et moi, alors, il n'y a pas de souci pour faire un tarif éducation, mais quand on nous demande de faire un tarif éducation qui est proche de ce que Adobe est capable de faire pour le monde de l'éducation, nous, c'est impossible. Je perds énormément d'argent si je fais les tarifs que ce que Adobe est capable de faire pour des écoles, des universités. Donc ça, le sujet de la tarification, ça ne veut pas dire qu'on est cher. Au contraire, on est beaucoup moins cher d'ailleurs que, enfin, nous sommes en tout cas moins cher que beaucoup de solutions présentes sur le marché qui font tout, hein, d'ailleurs, qui vont à la fois de l'outil auteur que du LMS. Nous, on est plutôt accessible sur ces enjeux-là. Mais pour des écoles, bah voilà, on reste un peu plus cher, en l'occurrence, que ceux qui font des tarifs éducation. Donc, on travaille sur ces sujets-là. Mais il y a un deuxième point aussi qui fait que Carls n'est pas forcément adapté à toutes les écoles. Bon, bah déjà, pour la cible, en l'occurrence, des enfants, on n'a pas du tout développé et pris en compte les principes de l'apprentissage pour des enfants, pour du primaire, pour du scolaire. En l'occurrence, on s'est vraiment focusé et centré sur des adultes en milieu et en conditions professionnelles. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc, pour des étudiants qui seraient dans le supérieur, typiquement, ben, on pourrait être adapté. Mais typiquement, ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, en plus du côté remise éducation, pourquoi pas, c'est de revoir un peu plus cette notion d'émulation et de challenge et de gamification. Donc, il faudrait avoir une version de Cards, si tu veux, qui incite au jeu, parce qu'on sait que les étudiants, alors vis-à-vis de leur âge et des conditions aussi sociales d'accès à l'emploi et d'accès aux études, bah, sont très friands, en l'occurrence, de gamification. Et c'est un choix qu'on a fait de ne pas rentrer dans cette direction-là aujourd'hui.
Vous êtes plus sérieux encore. Il va falloir rajeunir un petit peu, peut-être, pour accéder à ce marché.
Okay. On rigole quand même. On est joyeux, évidemment. On est capable de déconner, évidemment. Mais ouais, clairement, aujourd'hui, on s'adresse, évidemment, notre cible principale, ce sont des organisations, ETI, grands groupes, et on a évidemment des offres aussi, une offre accessible à des indépendants ou des plus petites entreprises.
Ça marche. Ok. Je vois le temps qui file. Si c'est OK pour toi, Je te propose de passer aux questions de la fin. Est-ce que tu...
Allez, avec plaisir.
Ok. On va commencer par la plus grande, la plus importante. Pour toi, l'éducation en 10 ans, c'est quoi ?
Alors, c'est une vaste question. J'espère que tu as encore une heure devant toi. Non, je blague. Mais l'éducation dans 10 ans, on est en 2023. À l'heure où on enregistre ce podcast, typiquement, eh bien, pour moi, en 2030, on va dire 2033, allez, l'éducation, ce sera pas une éducation. Je vais commencer par dire ce que ce ne sera pas, à mon sens, une éducation 100% numérique, 100% digitalisée. Je pense qu'on se met, alors c'est mon regard, on se met le doigt dans l'œil, hein, vraiment, si on pense que le numérique va remplacer le formateur, va remplacer les personnes qui conçoivent et qui animent des formations. Non. Il y aura toujours besoin de personnes qui ont de l'expérience sur un secteur professionnel et qui ont un vécu et qui ont une expertise, voilà, évidemment, à partager et qui sont capables de prendre aussi en compte les émotions, qui sont capables de prendre en compte l'environnement qui les entoure pour partager et enrichir l'expérience d'apprentissage. Et ça, c'est central, c'est fondamental si on veut garder une action de formation qui a du sens et qui est impactante. Donc, je pense que l'éducation, et j'espère en l'occurrence que le monde de la formation d'ici à 2030, formation professionnelle en entreprise notamment, restera centré sur l'humain comme moteur d'animation. J'en ai parlé un peu au début, c'est un peu notre credo, mais je souhaite faire en sorte que les outils numériques ne soient que des moyens qui permettent d'impacter, de sensibiliser, de rendre accessible la donnée, de rendre un accès à l'information, mais pas un moyen qui remplace le rôle du formateur et ce métier-là. Donc il y a de gros enjeux, et en 2030, ces gros enjeux, en effet, c'est de véritables enjeux parce que la technologie évolue tellement vite. On le voit aujourd'hui avec l'IA, on l'a vu avec le Web3, on continue de le voir avec le Web3, la blockchain. Il y a énormément de sujets comme les ordinateurs et la mémoire quantique aussi qui arrivent petit à petit sur le devant de la scène. Mais aujourd'hui, en 2023, 2024, on est encore à un niveau où ce sont des technologies qui sont trop peu accessibles au grand public et trop peu accessibles au commun des mortels, même en entreprise. Ce sont des technologies et des outils, des méthodes qui sont accessibles à des élites. Et donc, il faut être capable de se projeter, de se dire qu'en 2030, ces élites ne seront plus des élites, mais que le commun des mortels vont peut-être, en l'occurrence, réussir à se développer, à se former, à s'acculturer sur ces sujets-là, des sujets de fond, pour leur permettre de prendre en main ces technologies et d'améliorer l'action de transmission d'informations, de développement des connaissances autour d'eux. Donc voilà, il y a un lien très fort entre technologie innovante, avancée technologique, et au milieu, je mettrai l'humain comme moteur d'animation.
Super, merci pour cette très détaillée comme réponse, c'est super.
Ça ne reste que ma vision.
Tout à fait, mais je pense qu'elle est très partagée. D'ailleurs, moi, c'est un truc que je vois après beaucoup d'épisodes du podcast. L'IA, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Et en fait, à chaque fois, on a cette même remarque qui est « je pense que le formateur ne restera, en fait, ne partira pas ». Et tout le monde est d'accord, je crois, au final. Ouais. Donc, j'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui m'a dit « non, on supprimera les formateurs, ils n'existeront plus ». Donc,
on sera tous
formateurs de langue, par exemple. Qui seront plus.
Ouais, exactement. Ouais. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on voit aussi beaucoup de nouveaux rôles, de nouveaux métiers apparaître, comme les prompt engineers, des personnes qui ont comme métier aujourd'hui de faire des prompts toute la journée. Je les respecte beaucoup. Je pense que c'est totalement faux. Ils font pas que des prompts toute la journée. Ils travaillent sur l'usage de l'IA pour faciliter la création d'une vidéo, la création graphique, le brainstorming, pour faciliter quelque chose. Mais ils ne font pas toute la journée du prompt. On est d'accord, rassure-moi. Et donc demain, on n'est pas tous amenés à devenir prompt engineer. Par contre, on aura une aisance, une capacité à maîtriser ces technologies, ces outils pour faciliter notre quotidien. Et je pense que les personnes qui auront réussi ou qui vont réussir seront celles qui se seront remis en cause, se seront adaptées, se seront formées, se seront éduquées sur ces technologies-là pour non pas remplacer leur métier, mais augmenter leur métier, être plus productif, être productif d'une manière même, pourquoi pas, différente d'ici à 10 ans.
Ok. Est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis tout particulièrement dans l'univers de la formation ?
Alors, une personne ou un média, alors il y a les deux, oui. Il y a une personne que je suis beaucoup et que j'apprécie énormément, c'est Pierre Monclos de chez Youno, qui est DRH, que j'ai eu l'occasion de côtoyer et de rencontrer quand j'ai, en l'occurrence, un MOOC chez Youno, il y a longtemps déjà, il y a un peu plus de 7 ans. Mais Pierre Monclos, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je trouve qu'il a cette capacité à expliquer, à éduquer et sensibiliser sur son métier qui a beaucoup changé ces dernières années. Le monde du RH a énormément été bousculé. Et il a cette capacité à justement à être toujours centré sur l'expérience collaborateur, et ce que la technologie apporte à cette expérience collaborateur ou apporte à son métier. Donc c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il s'est beaucoup remis en question, il a beaucoup évolué, mais toujours très naturellement, et c'est une personne qui est très humble. Donc j'adore tout ce qu'il peut créer ou partager autour de son métier.
Super.
Salut Pierre.
Est-ce qu'il y a un... Salut Pierre, qui je crois n'est pas encore passé dans le podcast, mais qui c'est pas faute de l'avoir invité, donc peut-être qu'un jour on l'aura.
Il va bien.
Est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes ?
dans quel domaine ? Peu importe le sujet, un outil.
Ce que tu veux, un outil que tu as envie de promouvoir. Tu as une petite audience ici là qui va t'écouter. Donc,
Alors, évidemment, on ne va pas parler d'une autre. On va parler de. Moi, je suis un grand fan de Notion. Donc, le premier qui me vient en tête, c'est Notion ou Notion. Je ne sais jamais comment on dit. Mais typiquement, ouais, c'est pour moi un outil qui est, alors pas forcément accessible à tous très facilement, mais une fois que tu as compris la logique de conception des pages, de création de bases de données dans Notion, en fait, tu peux organiser ta base de données interne de ton entreprise avec la listing de tes collaborateurs, les bons plans, les codes d'accès Wi-Fi. Enfin, tu peux créer énormément de choses avec Notion et les partager très facilement. C'est pas des contenus qui ont une dimension, en l'occurrence, de partage de savoir. C'est des contenus plutôt de fond. On parle plutôt de base de données. Mais c'est un outil que j'adore. Typiquement, tu vois, sur notre roadmap, sur l'administration de la société, le suivi, toutes les infos RH, la RC Pro, les accès, tout ce qui est santé, mutuelle, retraite ou autre. Tout ça, c'est centralisé dans un endroit qui n'est pas sur un drive, qui est sur Notion et qui nous permet à tous d'y avoir accès très facilement.
Et je suis d'accord, c'est effectivement un très bon outil. Alors, je pense que Notion, c'est la version anglaise, Notion, la version française, on va dire. Mais voilà. Ok, est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet?
Alors oui, il y en a malheureusement, il y en a plusieurs, mais il y en a un, je ne vais pas parler de la dernière BD qu'on m'a offert et qui est complètement délirante, qui est un shérif junior en culotte courte et une BD canadienne très drôle, mais plutôt parler de le Product Book ou Discovery Discipline, qui est un livre qui a été écrit par Rémi Guillot et Tristan Charvia, de mémoire, qui sont deux anciens de Blablacar et un de PayPal d'ailleurs. Et c'est un livre qui est en ce moment sur ma table de chevet, en effet, et qui est plus proche aussi de mon canapé, et qui parle de comment réussir à exceller dans les métiers du PO et du PM, donc du product owner et du product management, pour réussir à optimiser son logiciel, son produit, quel qu'il soit. Donc voilà, ils se servent de leur année d'expérience chez Blablacar et chez PayPal, de ce qu'ils ont identifié comme méthodologie qui permet en l'occurrence de rester centré user, centré problématique, centré bénéfice et d'avoir une méthodologie basée sur une discipline, en l'occurrence qui est la Product Discovery Discipline.
Super. Eh bien, écoute, on arrive quasiment au bout des questions. Avant-dernière, où est-ce qu'on peut te trouver digitalement plutôt?
Digitalement, on peut me trouver sur LinkedIn, clairement. Sur LinkedIn, tu cherches Mathieu Thomas. Et du coup, tu vas me trouver. Il y a beaucoup de Mathieu Thomas. Mathieu, c'est mon prénom. Je suis régulièrement sur LinkedIn, parfois un peu trop souvent. Mais j'adore pouvoir découvrir, échanger. Je partage pas énormément d'informations, ça dépend vraiment des périodes et aussi de l'activité. Mais je tiens en l'occurrence à pouvoir garder ce canal de communication et d'échange qui est assez assez cool et de faire en sorte que LinkedIn ne se transforme pas en Facebook. C'est le petit message que j'ai à partager pour terminer. S'il vous plaît, ne faites pas en sorte que LinkedIn devienne Facebook ni Instagram. Ça reste un réseau professionnel. Si vous voulez partager votre vie personnelle, je pense qu'il y a bien d'autres réseaux sociaux pour ça. Donc c'est mon petit coup de gueule, mais c'est aussi l'endroit sur lequel on peut me trouver. Et si je partage ma vie sur LinkedIn, mettez-moi une grande pichenette, pas une claque évidemment, mais une petite alerte et je reviendrai à moi-même, je reprendrai mes esprits.
Ça marche. Et tu l'as pas dit, mais donc n'hésitez pas aussi à aller sur cards-microlearning.com. Je pense qu'on pourra te trouver ou trouver un de tes collègues là-dessus. Et ça peut avoir
Exactement.
De vous inscrire à Cards et découvrir tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup pour le temps accordé aujourd'hui. Et donc pour clôturer ce podcast, est-ce que tu as un dernier mot?
Eh bien, écoute, merci à toi, surtout pour l'invitation. Je clôturerai par tout simplement merci. C'est évidemment, c'est flatteur d'être invité sur un podcast, mais c'est toujours très cool de pouvoir discuter comme ça de manière transparente, sans préparation sur le sujet et d'avoir une discussion. Là, on a beaucoup parlé de ce que je fais, de ce qu'on fait chez Card, mais j'adore le format podcast. Et du coup, bravo pour l'initiative. La démarche et les divers épisodes que tu as lancés. En l'occurrence, c'est toujours agréable d'avoir un format qui est naturel, qui est une discussion entre deux personnes passionnées, ça se sent souvent, dans les oreilles, où qu'on soit, dans le métro, dans le bus ou ailleurs. C'est toujours très agréable, donc merci pour ça.
Écoute, merci à toi, et c'est le plaisir est mien. Et juste par curiosité, on pourra en faire des cards audio, est-ce quelque chose que vous faites ou pas encore?
Ouais, clairement, on peut.
Déjà,
on peut.
Et tu vois, on pourra peut-être faire un petit card avec le podcast, voir ce que ça donne. Mais donc, c'est un exemple peut-être de réutilisation, parce qu'on en a parlé dans divers épisodes, mais de réutilisation du contenu. Souvent, on fait un gros contenu, on peut le découper. Et je pense que là, avec Cards, on est en plein dedans. Ça ne veut pas
Exactement.
Dire recréer nécessairement du contenu. Parfois, c'est juste reprendre ce que vous avez et le mettre sous un autre format. On n'en a pas trop discuté, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Donc, merci beaucoup, Mathieu, et je te dis à la prochaine. Merci encore.
Et avec grand plaisir. Merci à toi, Elliot.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.